Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un savon, une turbulette, un petit guide. La France prête à se convertir à la boîte pour bébés, remplie d'accessoires utiles dès la naissance. Le gouvernement veut distribuer les premières dès l'année prochaine, un peu sur le modèle finlandais. On va tout vous expliquer. Les camps de migrants fermés en Grèce avec reconnaissance digitale à l'entrée. Un modèle pour le ministre français de l'Intérieur. Gérald Darmanin en souhaiterait ailleurs. En Europe, vous entendrez l'inquiétude des ONG. Au sommaire aussi ce matin, la longue grève de salariés d'H&M en Seine-Saint-Denis. Un témoignage très attendu à Londres, 17 ans après le naufrage du Bugalet de Braise. Et la Fédération française d'athlétisme sommet de se réformer avant 2024.
Au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes, à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin. Il co-réalise le documentaire « Debout les femmes ». Le concept est né, Alexis, il y a très longtemps, en Finlande. Il débarquera en France l'année prochaine.
Une bébé box distribuée aux jeunes parents à la naissance d'un enfant. Dans le pays nordique, ça existe, oui, depuis plus de 80 ans. Une boîte en carton remplie d'accessoires pour nourrissons et qui peut ensuite servir de lit pour les premiers mois de vie. Eh bien, selon nos informations, le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, travaille sur une initiative un peu du même genre, à déployer dès 2022 dans les maternités. L'objectif, Faustine Calmel, c'est surtout de mieux faire passer des messages de prévention et de santé publique.
En Finlande, la boîte vous arrive par la poste et peut laisser quelques parents, ceux-là sont français, perplexes.
Le fait. Deux paires de moufles. Ah non, ça c'est pour les pieds.
Le modèle que prévoit le gouvernement français ne contiendra pas de vêtements et se présentera sous la forme d'un sac plutôt que d'une boîte en carton. Pas question évidemment de faire dormir l'enfant dedans. Ici, ce qui compte, ce n'est pas le contenant, mais le contenu. Une turbulette pour sensibiliser au coucher de bébé sur le dos. Un savon naturel pour mettre en garde contre les perturbateurs endocriniens ou encore un livre pour inviter à stimuler l'enfant. Chaque objet doit être le vecteur d'un message de santé publique, précise Adrien Taquet. Pour des nouveaux parents, parfois un peu perdus et souvent noyés sous des flots d'informations contradictoires, cette bébé box sera distribuée à partir du mois de février dans les maternités. En ciblant d'abord les zones prioritaires, quartiers de revitalisation rurale ou politique de la ville.
Faustine Calmel sur cette bébé box à la française attendue donc pour l'année prochaine. Avant de rassembler les Français, il faut que je commence par ma famille politique. Après des semaines d'hésitation, Xavier Bertrand se résout finalement à soumettre sa candidature pour 2022 au congrès du parti Les Républicains. Il l'a annoncé hier soir sur TF1. Il ne fera pas cavalier seul et affrontera donc ses quatre concurrents le 4 décembre.
Il est 7h30. Le patron des évêques de France, Alexis, attendu place Beauvau cet après-midi.
Éric de Moulin-Beaufort va devoir s'expliquer face à Gérald Darmanin après ses propos controversés sur le secret de la confession, plus fort selon lui que les lois de la République. Le ministre de l'Intérieur, lui, sera tout juste rentré de Grèce. Ce week-end, il était sur l'île de Samos où vient d'être inauguré un nouveau type de camp d'enregistrement pour les demandeurs d'asile. Un camp fermé, les migrants ne peuvent en sortir qu'en journée. Pour Gérald Darmanin, c'est un modèle qu'il faut mettre en place ailleurs aux frontières de l'Europe, Maxence Lambrec.
Nous souhaitons, dit le ministre, que le modèle grec soit appliqué dans les autres pays méditerranéens, comme en Italie, en Espagne, à Malte. Le modèle grec, de quoi s'agit-il ? D'un tout nouveau camp fermé sur l'île de Samos, en face de la Turquie. Des dizaines de mobil-homes blancs, préfabriqués, entourés de kilomètres de grillages et barbelés. Plusieurs miradors et à l'entrée des portiques de sécurité avec reconnaissance des empreintes digitales. Les demandeurs d'asile ne peuvent sortir que de 8h à 20h. Ce camp impressionnant a été pensé comme un centre d'attente et permet aux Grecs de bien tenir leurs frontières, explique à l'AFP Gérald Darmanin. Alors que beaucoup d'étrangers entrent en Europe sans être enregistrés, poursuit-il, on ne sait pas quand ils arrivent en Allemagne, en France, quel âge ont-ils, quelle est leur nationalité, par où sont-ils passés. Gérald Darmanin lance cet appel un peu avant la présidence française de l'Union européenne en janvier, pendant laquelle Emmanuel Macron veut avancer sur le renforcement des frontières extérieures. Il se doit de répondre entre autres à Éric Zemmour et Marine Le Pen, admet un conseiller de l'exécutif. Et Gérald Darmanin commence donc déjà le travail.
Des camps de migrants fermés dont il faut s'inspirer ailleurs en Europe, selon Gérald Darmanin. Inquiétant pour certaines ONG, Sabine Gagné travaille pour Amnesty International.
Ces centres risquent d'empêcher d'identifier de manière efficace des personnes vulnérables. Parce qu'en réalité, Les personnes migrantes sont des personnes qui ont besoin de protection. Et ces centres, en fait, sont une logique de tri et qui, en fait, limitent l'accès des demandeurs d'asile aux services. La France a une responsabilité, notamment parce qu'elle va exercer la présidence de l'Union européenne dans quelques mois, et elle doit au contraire porter la parole d'une politique migratoire digne. Elle doit garantir des voies légales et sûres pour les personnes qui recherchent une protection, et elle ne doit pas encourager une logique d'enfermement et de traitement inhumain.
Sabine Gagné d'Amnesty International. Et c'est notamment en provenance d'Afghanistan que les dirigeants européens redoutent de voir arriver de nouveaux flux migratoires. Le G20 se penche sur la question cet après-midi. Les 20 pays les plus riches du monde se retrouvent dans une réunion virtuelle organisée par l'Italie avec à l'ordre du jour la situation humanitaire dans le pays depuis le retour des talibans. Faire émerger de nouveaux fleurons nationaux dans les secteurs d'avenir, c'est l'ambition du plan France 2030 qu'Emmanuel Macron doit dévoiler ce matin à l'Élysée. Un bouquet d'investissements pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, teinté de transition écologique. On va y revenir en détail dans le journal de 8 heures. Les ambulanciers appelés à la grève reconductible à partir d'aujourd'hui par deux de leurs fédérations. Elles réclament notamment l'entrée en vigueur d'une réforme des gardes et des tarifs, notamment des gardes, réforme négociée depuis des années. Eux sont en grève depuis jeudi dernier déjà. Des employés d'H&M bloquent le seul entrepôt du groupe en France, situé au Bourget, en Seine-Saint-Denis. C'est là que sont stockés les vêtements de la marque suédoise avant d'être dispatchés dans les magasins. Mais ce site doit bientôt fermer. À l'avenir, la marchandise sera directement expédiée depuis d'autres pays européens. Et plus de 150 postes sont menacés au Bourget. Incompréhensible pour les salariés concernés, dont une majorité de femmes précaires. Agira Mohamed les a rencontrés.
Khadija a 55 ans, dont 23 passés chez H&M, d'abord comme préparatrice, puis comme responsable d'équipe au Bourget, 23 années durant lesquelles j'ai tout donné à l'entreprise, dit-elle, trop donné.
On a laissé notre santé, notre jeunesse. J'ai mes mains qui lâchent, les tendinites, les canals carpiens, j'ai mal au dos. À force de, à l'époque, on portait les cartons lourds, les box, on poussait la marchandise, on faisait tout ce qu'il faut. Et maintenant, ben voilà, même pas merci je crois, hein. On n'a pas entendu.
Même amertume chez Catherine, 22 ans passée sur ce site.
Ils ont eu les meilleures années de nos vies. Hein. Il n'y a aucun respect de notre sueur pendant toutes ces années, rien. Et quand on leur pose la question cruciale, pourquoi le Bourget ferme, il n'y a aucune réponse.
Question que se posent tous les salariés, alors que le groupe H&M se porte bien malgré le Covid, il fait encore des bénéfices. Alors pourquoi nous licencier maintenant, s'interroge Rosine.
Moi, à 51 ans, je ne me vois pas encore aller chercher un nouveau travail sans avoir été formée. C'est-à-dire que les jeunes ne trouvent pas, alors c'est pas nous à 50 ans qui allons trouver, quoi.
D'autant que la direction, selon les syndicats, ne propose pas grand-chose en termes de reclassement, à part des postes en boutique payés beaucoup moins cher.
Reportage à Gérard Mohamed et sollicité par mail, le groupe H&M n'a pas répondu aux questions de France Bleu Paris. Le commandant de la Royal Navy cache-t-il un lourd secret? Andrew Coles doit témoigner aujourd'hui devant la Cour royale de justice de Londres dans l'affaire du Bugalet Braise. L'audition de cet ancien commandant de sous-marin est très attendue par les familles des 5 marins morts dans le naufrage du chalutier français il y a 17 ans. Elles sont persuadées qu'un sous-marin est à l'origine du drame au large des côtes anglaises. Ce jour-là, le 15 janvier 2004, le Turbulent, dirigé donc par Andrew Coles, était dans le secteur Richard Place.
Le HMS Turbulent se trouvait à quai ce jour-là. La Royal Navy n'en démord pas. Andrew Coles a toujours tenu ce cap également. Mais l'attitude de l'ancien commandant du sous-marin laisse penser qu'il en sait plus qu'il ne le dit. Il y a 8 ans, il rencontre le fils de l'une des victimes. L'échange avec Thierry Lemaitrier est bref. Mais d'après l'avocat du français, le militaire britannique lui dit à cet instant qu'un sous-marin a sans doute entraîné le Bugalet Braise par le fond. Thierry Lemaitrier, qui va assister à l'audience aujourd'hui, attend la confrontation avec impatience, sans animosité.
J'ai jamais pensé que, si vous voulez, que c'était un pirate. Il a eu du courage de venir déjà à notre rencontre il y a quelques années. Je lui avais dit, il faut m'aider, sinon, nous on continue sur cette voie. Et il m'avait dit, si j'étais à ta place, je ferais exactement la même chose.
S'il sait quelque chose, qu'il parle, implorent les proches des marins disparus. Andrew Coles avait accordé une interview au Télégramme il y a bientôt 10 ans. Il confiait qu'une dizaine de messages avaient été envoyés par son sous-marin le jour du drame, sans en révéler le contenu. Quand les avocats français ont demandé ces messages au ministère britannique de la Défense, ils ont reçu ceux du lendemain. Croyant à une erreur, ils ont réclamé les échanges de la veille. On leur a alors opposé le secret défense. Londres, Richard Place, France Inter.
La directrice générale du Fonds monétaire international peut rester à son poste. Le conseil d'administration du FMI renouvelle ce matin sa pleine confiance en Kristalina Georgieva, malgré les accusations récentes d'irrégularité à son encontre.
Il est 7h39, une seule médaille cet été au JO de Tokyo. Comment relancer, Alexis, l'athlétisme français avant 2024?
La Fédération française est reçue aujourd'hui à l'Elysée. Au menu, le projet sportif pour les 3 ans à venir, après le bilan décevant des derniers Jeux, souligné d'ailleurs récemment par Emmanuel Macron. L'exécutif et l'Agence nationale du sport veulent reprendre la main. Ça ne plaît pas à tout le monde, Marine Clette.
L'étincelle est craquée par Claude Onesta la semaine dernière.
Quand vous regardez que ça représente pratiquement 150 médailles potentielles et qu'on a fait une, si c'est pas une inquiétude, je sais pas comment vous voulez l'appeler.
Le patron de l'Agence nationale du sport parle d'une fédération aux résultats décevants et à l'encadrement insuffisant. Il évoque alors un accompagnement.
Il faut repenser un système qui aujourd'hui a du mal à produire. Et il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit dans le moment. Encore une fois, on n'imposera rien. Mais on doit arriver à un projet abouti.
La fédération, elle, n'a pas du tout apprécié le message. Son président, André Giraud, se dit exaspéré par ces attaques répétées et inutiles. Nous prendrons des décisions ensemble avec l'État, mais nous ne laisserons personne décider seul et à notre place. En fait, la fédération attend les candidats pour sa chaise vide de directeur technique, mais il est nommé par le ministère des Sports. Les instances profitent donc de ce moment pour reprendre les choses en main. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, se justifie.
On ne peut pas se permettre que sur des sports comme l'athlétisme et la natation, on revienne avec une médaille d'argent pour chacun des sports. Ces deux fédérations connaissent une petite baisse de régime et il faut les accompagner au plus près.
Et pour remporter plus de médailles dans 3 ans, la ministre souhaite mettre en place une cellule de haute performance dans chacune des fédérations avant la fin de l'année.
Marine Clette avant cette réunion à l'Elysée avec les patrons de l'athlétisme français.
Merci Alexis Morel. L'édito politique arrive.
Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid.
Bah, ça va, t'es vacciné comme moi. Tu me diras, comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui?
Moi, j'avoue, j'hésite encore. Franchement, je préfère attendre.
Mais t'es sérieux? D'attendre quoi? D'être hospitalisé?
Attends, la question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. C'est important aussi, les autres.
Ok, mais entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il protège vraiment ce vaccin?
On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. Plus d'informations sur les lieux de vaccination sur santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.